Voilà, fin mai, c'était la période de Pentecôte. J'ai eu le privilège de me déplacer jusqu'à Lugano avec Reto. On avait une carte journalière, on a passé énormément de temps dans le train. Et j'avais proposé d'avoir un petit culte dans le train, sympa, connaissant Reto. Et sur la base du récit de la Pentecôte, de ces textes qui nous montrent qu'après la descente du Saint-Esprit sur les personnes qui étaient là, disciples et autres personnes qui étaient en pèlerinage à Jérusalem, eh bien, le texte nous dit qu'ils ont persévéré. Ils ont persévéré dans quatre directions, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, on a eu tout un débat, c'était vraiment riche. Vous pouvez le faire, d'ailleurs, dans vos groupes de maison ou dans vos foyers. Et puis, ce qui m'a surtout interpellé personnellement, c'est cette dimension sur laquelle je vais m'arrêter un moment ce matin. Cette persévérance dans les prières. Et ça m'a rappelé un autre voyage en train. J'avais entendu le témoignage d'un évangéliste il y a déjà bien des années qui, dans le train, était assis en face d'un musulman. Enfin, il a discerné que c'était un musulman, l'habillement, etc. Et puis, il est entré en discussion avec cet homme. Il lui a dit, mais je pense que vous êtes musulman, n'est-ce pas? Et oui, confirmation. Et puis, d'après ce que j'ai compris, dans l'islam, vous priez 5 fois par jour, n'est-ce pas? Et cet homme, tout heureux de pouvoir entrer en matière sur le plan de la religion, de discuter de ce qu'il vivait. Et puis, voilà. Et ensuite, peut-être qu'il se sentait obligé de retourner la question et dire, mais vous, dans le christianisme, puisque vous me dites que vous êtes chrétien, combien de fois vous priez par jour? Eh bien, c'était Pierre Van Worden qui lui a dit, mais la Bible nous demande de prier sans cesse. Et c'est vrai que, quel bonheur de découvrir qu'on peut avoir une prière communion avec Dieu. Et dans ces moments, que ce soit de jour, de nuit, dans des moments faciles ou difficiles, on sait qu'on peut adresser à Dieu nos prières, lui partager peut-être nos peines, nos joies, bien sûr, j'espère, surtout, et puis les défis qui sont là. Mais il y a cette dimension communion qui est extraordinaire. On peut lui partager aussi nos tentations, nos combats différents, c'est vrai. Alors, finalement, j'ai intitulé ce partage tout simplement de la pratique religieuse à une relation communion avec Dieu. Il me semble que je pourrais presque arrêter mon message là. Je pense qu'à travers cette anecdote, ces anecdotes, vous avez compris un petit peu et on peut être déjà bien interpellé, stimulé, j'espère. La Pentecôte, c'est une fête annuelle dans le monde juif. Il y a 2000 ans, ça a été une visitation extraordinaire par le Saint-Esprit. Vraiment. C'était un souffle extraordinaire. Et c'est intéressant de voir qu'il persévérait dans les prières. Qu'est-ce qui se passait dans le judaïsme et qui se passe encore aujourd'hui, à une exception près, c'est que, bon, il n'y a plus vraiment le temple qui a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, il n'y a plus que le mur des Lamentations ou le Kotel. Mais c'est impressionnant de découvrir la prière juive. J'ai lu d'ailleurs tout un livre récemment sur la prière juive. Et les Juifs ont l'habitude de prier 5 fois par jour, au début de la journée, quand ils se lèvent. Et puis, quand il y avait le temple, mais quand on est à Jérusalem, on voit les Juifs ultra-orthodoxes qui vont au temple ou au mur des Lamentations. Parce que pour eux, ça représente le lieu par excellence où Dieu s'est manifesté. Il y a une présence de Dieu incroyable, inouïe. C'est un endroit unique sur la terre dans cette intensité-là. Et les Juifs allaient 3 fois par jour au temple, 9h, midi, 3h, l'après-midi. Puis ils avaient encore la prière du soir. Et puis encore la prière quand on commence le Shabbat. Et la prière à la fin du Shabbat. Et la prière pour les repas. La prière pour... C'est impressionnant. Alors c'est vrai qu'il y a eu de tout temps, à chaque époque, des juifs pieux, vraiment des hommes, des femmes qui ont craint le Seigneur. Et on voit Jésus dans ses contacts avec certains d'entre eux, qui ont un cœur qui est ouvert, qui est préparé par l'Esprit de Dieu, mais à l'inverse aussi des juifs très religieux, et qui, ça passe pas. Et Jésus n'a pas passé pour eux. C'était inimaginable qu'il ose se prétendre être le Fils de Dieu. Alors, c'est vrai que la venue de Jésus a bousculé énormément de choses. Il y avait beaucoup de promesses hein, par rapport à la venue de ce Messie. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand on lit dans l'Évangile, notamment chez Luc, ce qui s'est passé avec ses disciples, qui étaient des Juifs habitués à la prière, même s'ils habitaient en Galilée, ils allaient au moins les trois fois par année, si possible, pour les grandes fêtes à Jérusalem. Mais quand ils ont été au contact avec Jésus, après quelques mois de ce contact, ils ont dit, Jésus, mais enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Ils ont pris conscience que Jésus avait une manière de prier, d'être dans la prière, dans cette communion qu'il avait avec son Père, qui leur faisait envie. Et Jésus leur a enseigné le Notre Père. C'est magnifique. Quelque chose de très, très riche, bien sûr. Et lors de la Pentecôte, naissance de l'Église, il y a cette visitation de l'Esprit qui fait qu'ils vont se retrouver là, avec cette dynamique-là. C'est poussé par l'Esprit, dans le fond, qu'ils vont persévérer dans la prière. Ce n'est pas une loi nouvelle, ou une loi nouvelle par le Saint-Esprit, certes, une impulsion par le Saint-Esprit. Ils sont conduits à se retrouver. Dès qu'il y a l'ascension, les disciples, les onze, puisque Judas s'était suicidé, et puis les femmes, et puis Marie, ils persévèrent dans la prière. Ils attendent l'avenue du Saint-Esprit, ils intercèdent pour que le Saint-Esprit descende selon ce que Jésus l'a promis. Et ces disciples, nés de nouveau, visités par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont juifs, c'est tous des juifs. Il y en a 3000 qui étaient des pèlerins venus de toutes sortes de pays. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais Jésus aussi est allé au temple. Ils vont aller aussi au temple, ils vont aussi prier dans les maisons. Il devait y avoir un de ces va-et-vient, un foisonnement de prières, d'intensité, quelque chose de dynamique, de magnifique. Et ainsi, il va y avoir une multitude de possibilités de prières. On va prier au temple, on prie dans les maisons, on prie tout seul, en se retirant dans sa chambre, comme Jésus l'avait enseigné. On est en duo de prière, on est en trio de prière. On est en groupe de maison, ça s'est perpétué dans l'histoire du christianisme. Et si vous voulez un bon livre pour l'été, vous avez du temps, vous êtes en vacances, vous lisez le livre des Actes uniquement en soulignant les passages qui évoquent la prière. C'est juste bluffant, stupéfiant. Parce qu'on voit que il y a une diversité de prières qui est adressée à Dieu. Et ce n'est pas juste égocentrique. C'est vraiment pour la gloire de Dieu. C'est des prières dans toutes sortes de circonstances. C'est quelque chose d'étonnant. Il y a des exaucements fabuleux. Il y a aussi de la souffrance, il y a de la persécution. Mais vraiment, on voit que c'est un livre inspiré par le Saint-Esprit qui peut nous renouveler. Si peut-être on est plus en difficulté dans cette dimension de la prière, dans nos parcours de vie. On peut être parfois découragé, on peut pas traverser des déserts. Mais je crois que le Seigneur, c'est ce qui est à cœur ce matin, c'est qu'il voudrait nous stimuler et nous permettre d'aller plus loin. Alors j'aimerais ajouter encore deux dimensions, deux éléments qui nous permettent d'approfondir cette notion de persévérance dans la prière. Tout d'abord, un texte dans les Éphésiens, dans le chapitre 6 des Éphésiens. On se souvient que C'est un chapitre qui évoque en particulier la dimension du combat spirituel. Et dans ce combat face aux puissances, aux esprits méchants dans les lieux célestes, face à cet adversaire redoutable, Satan, eh bien, Paul donne quelques images. Il est en prison à Rome, il y a devant lui des gardes romains, il s'inspire de leur uniforme de combattant. Et puis, tout cela se termine par ces précisions dans Éphésiens 6, 18 et 19. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance. Et en priant pour tous les saints, priez pour moi, afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Je reprends brièvement deux ou trois éléments de ce texte. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça pourrait donner l'idée que la foi, je ne sais, pratique religieuse, christianisme, prier sans cesse. Évidemment, si on le vit à la force du poignet, dans un esprit religieux, vous faites ça deux jours, trois jours, puis après c'est fini. Hein. Mais si à l'éclairage de cette dimension, de cette dynamique de la vie de l'esprit qui va inspirer cette prière, lisez Romains 8, qui va la susciter, qui va la féconder, ben ça change tout. Ça change tout parce qu'on se dit à ce moment-là, mais on a un accès auprès du Père. Mais quel privilège, nous sommes enfants de Dieu, filles et fils de Dieu, du Seigneur. Mais quel cadeau, quel cadeau, quel cadeau que ce don du Saint-Esprit. Et on peut être renouvelé dans ce don du Saint-Esprit. Et c'est seulement par la présence et la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons prier selon la volonté de Dieu, parce que l'Esprit va nous inspirer. Des fois, on ne sait pas trop comment prier. Il y a bien sûr ce qu'on souhaiterait idéalement. Hein, si nous étions Dieu, on ferait comme ci ou comme ça. Mais après, il y a toute la réalité de notre nature humaine et de notre environnement. Mais on a confiance que l'Esprit peut même inspirer des mots, inspirer des paroles, même donner à travers le parler en langue une prière de louange, donner des paroles de connaissance, des convictions. Comme Paul, quand il avait cette écharpe dans la chair. C'est impressionnant, il a prié trois fois pour être délivré de cette écharpe dans la chair, qui était douloureuse pour lui. Il n'a pas prié trois fois dans la même journée, je pense, 9h, midi et 3h l'après-midi. Certainement qu'il y a eu un laps de temps entre ces trois temps de prière. Puis à un moment donné, le Seigneur lui a dit, écoute Paul, arrête de prier pour ça. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est juste fantastique, ce n'est pas une prière mécanique que je récite, hein, des prières du matin au soir. Petit chapelet, ça peut aider, mais quand même. Je m'arrête là. Veillez cela avec une entière persévérance. C'est le seul texte du Nouveau Testament où il y a, par rapport à la persévérance, cette dimension d'entière. Je ne comprends pas tout ce que ça veut dire, mais je pense qu'il n'y a pas de faux semblant, il y a quelque chose à vivre dans cette dynamique de l'esprit. Il y a notamment le fait d'être vigilant, d'être persévérant, dans les doutes aussi qui peuvent être là, dans les distractions, dans les vagabondages des pensées, être entièrement présent pour Dieu. Alors c'est bien si vous êtes en train de cuisiner, que vous priez en même temps que vous cuisinez, d'avoir quand même un œil un peu sur la casserole, mais je pense qu'il y a tellement d'autres fois où un peu par devoir, on dit bon, on va prier, il faut le faire, c'est bien. Et puis on parle le matin, oui Seigneur, bénis cette journée. Je ne suis pas sûr que c'est une entière persévérance. Je pense qu'on pourrait peut-être au moins s'arrêter un moment dans le silence pour dire, mais Seigneur, est-ce que tu aurais quelque chose à me dire dans cette journée? J'ai besoin de toi. Hein? Voyez, on peut comme ça entretenir, développer une relation qui est plus ou moins intense selon ce que nous sommes, selon ce que nous vivons. Et puis il y a un processus de maturation aussi dans nos vies, ça c'est clair. Oui, nous pouvons continuer à prier jusqu'à ce que l'Esprit nous arrête ou que le Père nous réponde. Ce n'est pas de l'acharnement thérapeutique ou spirituel. C'est une dimension de relation. Avec cette dimension aussi qui est soulignée, et en priant pour tous les saints, et Paul demande aussi qu'on prie pour lui. Et tous les saints, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Les saints, ce n'est pas les gens parfaits qui n'ont pas fait d'erreur, qui n'ont pas commis de péché. Dans l'Écriture, c'est les gens qui ont été mis à part parce que le Saint-Esprit les a appelés, leur a révélé cette dimension de qui est Jésus, Sauveur et Seigneur. Ce Messie incroyable, inouï, qui était attendu pendant des siècles. Les prophètes avaient annoncé cela. Voilà, priez pour tous les saints. Priez aussi pour moi. Il y a une guerre spirituelle face à Satan. L'Église, si elle n'a pas la prière, elle est laminée. Dans un des voyages que nous avions fait en 2004 avec le groupe de jeunes, nous étions allés en Égypte. Je ne sais pas s'il y a des jeunes de cette époque qui sont dans la salle. Martin, j'ai vu, aperçu Martin tout à l'heure, il me semble. Nous étions avec Magdi Saber, un homme de Dieu qui nous avait beaucoup frappé quant à son vécu. Et notamment, nous étions dans le désert du Wadi Natroun. Et là, ils avaient construit un centre chrétien à côté d'un village, à proximité d'un village musulman. Et je me souviens que, voilà, on était frappés, il y avait ce centre chrétien, puis il y avait un minaret qui s'était construit comme par hasard, juste après la construction de ce centre, hein, c'est une pratique de l'islam, pour dire c'est nous qui sommes là, c'est nous qui, etc. Nous sommes la meilleure religion, etc. Et puis alors, le matin, vers 4h, 4h30, le muezzin, ça y va. Mais moi, ça me foutait en colère, cette histoire. Ça me coupait mes nuits. Après, j'étais laminé au début de la journée. Alors, finalement, j'ai demandé à Magdi, j'ai dit, mais tu ne pourrais pas t'arranger pour pas un petit sabotage, peut-être, mais je ne sais pas. Et puis, il m'a dit, mais tu sais, moi, je loue Dieu chaque fois qu'elle me dit, parce que sans ça, je ne pense pas que je prierais autant pour les musulmans. Donc, ça me réveille, OK. Et puis, je bénis ce village des musulmans qui est à côté. Je demande au Saint-Esprit de leur révéler le nom de Jésus, etc. Voilà. Moi, ça m'avait quand même pas mal chamboulé. Donc, je m'en souviens encore aujourd'hui dans mes nuits, des fois, où j'ai des insomnies, plutôt que de râler, de dire mince, etc. Ou de me mettre devant la télé, dire oh, ok, calmos. Et c'est étonnant, notamment dans la nuit, hein, vous avez certainement fait cette expérience, là, tout est calme. Une fois que le médecin a arrêté son truc, là. Et puis, il y a peut-être souvent des inspirations qui viennent, des pensées. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Et c'est surprenant. Surprenant. Puis, on peut commencer à prier, à intercéder, peut-être un moment. Peut-être on va s'endormir au bout d'un moment. Mais moi, j'ai expérimenté ça régulièrement. Et je me dis, ben, de jour comme de nuit, voilà ce que le Seigneur peut faire. Et cette prière, pour les serviteurs de Dieu aussi, puisque Paul la demandait, c'est quelque chose de tellement important, tellement beau. Je suis touché. Je ne sais pas ceux qui reçoivent la lettre de prière d'Aline et de David, Lampert, dans un pays étranger. Leur dernier article circulaire, je trouvais que c'était extraordinaire, comme ils ont décidé de rester dans ce pays, malgré toute la crise politique qui est là. Ils ont dit non, on a demandé au Seigneur, il nous a demandé de rester là, on y reste. On reçoit la force de lui. Et on reçoit la force de toutes ces prières qui s'élèvent pour nous, on en est conscient. C'est super. Et je vous recommande, si vous ne savez pas que faire de vos soirées, de vos mercredis soirs, de novembre, décembre, il y a 6 soirs ici, le cours Résister, ferme dans la foi. Porte ouverte a mis en place ce cours, et vous verrez l'importance de la prière. Comment est-ce que les chrétiens dans les pays persécutés de manière frontale disent, mais sans la prière, on ne tiendrait pas le coup. Et puis combien ça nous honore aussi de savoir qu'on peut prier pour eux. Puis on réalise aussi que nous aussi, on a besoin de la prière des autres, dans nos circonstances, dans notre environnement, en Occident. L'air de rien, les combats s'intensifient de plus en plus, même dans nos sociétés dites chrétiennes. Et je pense que ce n'est pas un luxe, donc vous pourrez peut-être, dans le Memento, dans la Frat News, il y avait la publicité pour cela. Un dernier texte rapidement, et puis je terminerai ce premier temps, on se retrouvera pour un moment d'appropriation tout à l'heure. Une précision aussi, dans les Colossiens 4:2, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Là, je dois dire chapeau aux aînés. Bon, je suis devenu un aîné, bon, mais la génération au-dessus de moi. Moi, ça m'a souvent frappé, cette dimension, cette dynamique de reconnaissance des aînés. Je ne sais pas si ça vous a frappé. Vous êtes en contact avec des gens qui sont plus âgés que moi. Il y a mamie Jacques qui est là, hein, ce matin. Hein? Ruth, vous allez la voir une fois. Ça va, Ruth? Écoute, je suis tellement reconnaissante parce qu'elle vous sort une liste comme ça. C'est pas vrai, Ruth? Je mens ou bien? Voilà. Avec une attitude de reconnaissance qui peut se nourrir aussi peut-être du souvenir d'exaucement de prière du passé quand on est un peu découragé. Moi, j'ai un livre de prière. Je note tous les jours des choses. Puis quand ça ne va pas bien, je relis un petit peu en arrière. Oh, mais je suis un imbécile, mais pourquoi je doute, le Seigneur? Bon, on sait que tu réponds par oui, non ou attends, parce que ce n'est peut-être pas le moment. Mais voilà. Mais le Seigneur, on peut être reconnaissant. La prière est une ressource extraordinaire. Alors, on terminera tout à l'heure, on va faire une pause par un temps d'appropriation, où là, on pourra, vous verrez, à votre rythme, on pourra vivre, j'espère, un temps béni pour mettre en pratique. Je laisse Sébastien reprendre un petit moment le flambeau et je vous rejoins dans très très peu de temps. Au début juillet, on était à Gland pour un temps d'évangélisation dans la rue, le Turning. C'était intéressant parce que j'étais avec un équipier là, et on est arrivé devant un homme qui était assis là à Eknot, et puis c'est un homme du Cap-Vert. Il parle portugais, il ne parlait pas beaucoup le français, mais mon collègue, mon ami, mon camarade, mon partenaire était très très enthousiasmé de pouvoir comme ça parler du Seigneur. Alors, il y a envoyé toute la sauce. Là. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Est-ce que vous savez que Dieu a un plan pour vous? Et puis si vous devez mourir aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? Et puis j'ai vu que l'autre avait comme un peu de la peine, et moi j'étais peiné pour lui. Puis finalement, ben, on ne savait pas que faire. Quoi. Mais tout d'un coup, j'ai pensé au smartphone. Je me suis souvenu que j'avais un ami qui s'appelle Eduardo Guimarães, qui est brésilien, qui parle portugais. J'ai téléphoné à Eduardo. J'ai dit, écoute Eduardo, voilà ce qui se passe, on est dans la Moïse. Bon. Et passe-moi-le. Tac. Et puis la conversation a duré 2-3 minutes. Puis l'homme m'a tendu le smartphone. Eduardo m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est un frère en Christ. Il connaît le Seigneur. Donc c'est fantastique. Alors, l'image du smartphone, j'aime bien la prendre aujourd'hui dans un sens positif. Il y a beaucoup d'accueil, hein, mais c'est extraordinaire. Quand je vais dans le train, je vois tout le monde à son smartphone, ils discutent. Je me dis, mais mon rêve serait de dire que tout le monde peut parler avec le Seigneur comme ça, mais finalement, c'est ce qui peut se passer. Où qu'on soit, hein, on est constamment connecté et on peut utiliser. J'espère que vous avez un abonnement. Moi, j'ai carte prépayée encore, mais j'espère que vous avez un abonnement et que vous l'utilisez bien. Hein, à tout moment, on peut prier. La prière couvre un vaste horizon, action de grâce, louange, adoration, confession, repentance, écoute, supplication, intercession, prophétie. Je pense que Roger a une parole prophétique ce matin, tout à l'heure, pendant les chants. Prière de délivrance, de guérison, d'autorité, d'envoi. Donc effectivement, on va vous convier, comme l'a dit Sébastien, on va vous donner une dizaine de minutes pour prendre ce temps. Vous pouvez prendre ce moment seul avec Dieu, vraiment, ou vous pouvez prier avec quelqu'un qui est à côté de vous, voire éventuellement vous déplacer, qu'il n'y ait pas trop de déplacement, mais je veux prier pour ce moment. Père, je te remercie pour mes frères et sœurs, je te remercie parce que l'Église, c'est ta création. Je te remercie parce que dans ce livre des actes, qui sont les actes du Saint-Esprit, tu nous montres cette diversité, cette richesse de prières, suscitée par l'Esprit. Et je demande que par ton Saint-Esprit, maintenant, tu sois avec nous pour conduire ce moment de prière. Que ce ne soit pas juste un exercice pénible en se disant, pourvu que ces 10 minutes passent vite, mais que ce soit une occasion peut-être de silence, d'écoute. peut-être d'action de grâce, peut-être même un témoignage à la personne assise à côté de moi pour dire, mais tu ne te rends pas compte, le Seigneur m'a répondu cette semaine d'une manière incroyable dans la prière, moi je suis tellement encouragé. Au contraire de dire, mais tu sais, mon fils n'a toujours pas trouvé de place d'apprentissage, je suis inquiet, tu serais d'accord que de partager ce fardeau avec moi. Voilà. Eh bien, Saint-Esprit, tu conduis ce moment à la gloire du nom de Jésus. Et Père, merci parce que nous sommes tes enfants que tu accueilles, vraiment. Amen.